Culture. Expo.
Transversal.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Transversar, édition qui sera tout à fait spéciale puisqu'il s'agit déjà du dernier numéro pour cette année. Déjà, et hélas évidemment. En première partie, nous respecterons la structure habituelle de l'émission en vous proposant un entretien autour des Assises internationales du roman, organisées par la Villa Gilet, du 23 au 29 mai. Venus du monde entier, des écrivains, mais aussi des journalistes, scénaristes, comédiens, musiciens, philosophes, et je vous passe les physiciens et autres astronautes, se réuniront pour des journées de conférences, de débats et de lectures. Bref, la fin du mois de mai promet d'être bouillonnante et nous vous en proposons ici un petit avant-goût sous la forme d'un entretien réalisé avec Maria Cojocario et Céline Linguagrossa, qui sont toutes les deux membres de la Villa Gilet. Ceci sera l'occasion pour elles de vous présenter non seulement les Assises internationales du roman, mais également la Villa Gilet, dirigée par Guy Walter et qui est devenue, avec les années, une institution majeure de la vie culturelle.
Après cet entretien, nous vous proposons un petit salon un peu différent. En effet, face au choix crucial du sujet du dernier transversal...
Ah là là.
Oui, on arrête d'en parler. Hein. Nous avons justement décidé de ne pas choisir. Au lieu de nous concentrer sur un des événements culturels du moment, comme nous faisons d'habitude, nous allons revenir sur plusieurs manifestations qui se sont déroulées cette année et auxquelles nous avons consacré une émission. En revisitant ces grands moments culturels, c'est un autre regard que nous vous proposons. Un regard qui dépasse l'événement lui-même, pour prendre en compte son déroulement, les réactions qu'il a suscitées et les éventuelles suites qu'il peut proposer. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, c'est l'art dans toute sa diversité qui vous attend dans ce dernier petit salon.
Chouette alors.
Oui, très bien. Mais faisons d'abord un détour par la Villa Gilet, où nous attendent Maria Cojocario et Céline Linguagrossa pour parler des Assises internationales du roman. Bonjour Maria, bonjour Céline.
Bonjour.
Donc nous sommes à la Villa Gilet pour parler des Assises du roman, plus précisément de l'édition 2011. Donc vous êtes deux membres de l'équipe, c'est un événement organisé par cette Villa Gilet. Est-ce que pour commencer, l'une d'entre vous, donc Céline par exemple, pourrait présenter la Villa Gilet et ses activités ?
Oui, la Villa Gilet, c'est une institution qui a été créée en 1987 par la région Rhône-Alpes et qui est consacrée au langage contemporain, c'est-à-dire à la littérature, à la philosophie, aux sciences humaines et sociales, à l'histoire de l'art, et qui, dans son histoire d'institution, a organisé un certain nombre de rencontres, de manifestations diverses, également tournées vers le spectacle vivant. Aujourd'hui, c'est moins le cas. On est vraiment revenu sur une programmation qui se concentre sur des rencontres avec des auteurs, avec des chercheurs, etc.
Et vous êtes une institution lyonnaise, c'est-à-dire que vous êtes aidée, je crois, par la région. Vous...
Oui, effectivement. Donc la Villa Gilet, c'est une association qui donc a été créée par la région Rhône-Alpes et qui est financée par la région Rhône-Alpes, la ville de Lyon, la DRAC également. Donc effectivement, qui est très, très lié à ce territoire.
Et donc si je comprends bien, dans l'année, vous faites un certain nombre de manifestations et la littérature est un objet parmi tant d'autres.
Oui, dans l'année, on organise des rencontres, en gros, entre septembre et avril, qui sont à la fois, effectivement, des rencontres avec des thématiques très littéraires, mais aussi des rencontres plus tournées vers les sciences humaines et sociales, comme ça a été le cas, par exemple, cette année, avec une série de 5 rencontres franco-américaines en sciences sociales, donc sur des thématiques très variées, comme le journalisme, la web culture, l'environnement, donc qui sont des thématiques de société et qui permettent de porter un regard sur le monde contemporain.
Et je crois que la Villa Gilet n'est pas seulement tournée à Lyon, elle est aussi en Europe et aux États-Unis, je crois.
Oui, absolument. Cette année, la Villa Gilet a mis en place une série de rencontres franco-américaines, là encore, mais qui se sont tenues à New York et qui se tiendront encore à New York. C'est une série de rencontres qui s'appelle Walls and Bridges et qui fonctionne sur 3 saisons. Donc la première en janvier, la deuxième en avril et la prochaine est à venir encore en octobre. Et il s'agit d'une dizaine de jours de rencontres dans divers lieux à New York, autour de thématiques très larges, les neurosciences, les droits, les libertés, avec donc des invités, des intellectuels et des artistes français et étrangers.
Donc maintenant parlons un peu des Assises du roman. Donc c'est l'événement du printemps de la Villa Gilet depuis 4 ans, je crois que c'est la 5e année, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est la 5e année.
D'accord. Donc avant de nous plonger dans l'édition 2011,
Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur l'esprit de cet événement pour la Villa Gilet, puisqu'il s'agit d'une semaine de rencontres et de plusieurs types de rencontres, donc en bibliothèque, en table ronde, des entretiens, des lectures. Donc Maria.
Oui, les Assises du roman est un événement qui a été créé donc il y a 5 ans, qui prend de plus en plus de l'ampleur cette année. On va anticiper un peu juste pour dire que cette année on se tourne beaucoup aussi vers les autres sciences. Disons des sciences dures. L'événement a été conçu comme une semaine de débat autour des thèmes littéraires, autour des auteurs. C'est plus que juste des rencontres de signatures, comme ça pourrait être le cas pour des salons du livre. Il s'agit de vraiment connaître les auteurs, de les entendre parler, de les entendre discuter avec d'autres personnalités littéraires qui sont soit des auteurs, soit des critiques, et de rendre aussi la littérature vraiment vivante pour le public.
Comment on organise tout simplement les Assises du roman ?
Alors juste une petite précision déjà concernant les Assises. Elles ont été créées donc en 2007, effectivement il y a 5 ans, à l'occasion des 20 ans de la Villa Gilet. Et depuis le début, elles sont conçues par Le Monde et la Villa Gilet, donc vraiment en collaboration très étroite. Ça aussi, c'est une singularité de programmation.
Il y a beaucoup d'aspects, évidemment, qui sont liés à l'organisation des Assises. Il ne faut pas oublier, il s'agit de rencontres avec le public, mais où les libraires sont eux aussi présents. Les bibliothèques sont elles aussi investies dans le projet pour aller vers leur public, vers leurs lecteurs, leur proposer des rencontres, leur proposer certains livres, certains thèmes qui rejoignent les thèmes des Assises. Céline s'occupe de tout ce qui est relation avec les bibliothèques, tandis que moi, je suis plutôt tournée vers les relations avec les libraires lyonnais. Ensuite, bien sûr, il y a tous nos collègues en production qui préparent maintenant les arrivées des auteurs, des critiques, des journalistes. Ça commence par une programmation qui est faite pas selon une logique d'actualité littéraire, mais autour des thèmes qui semblent être présents dans la culture contemporaine. Au cœur de la programmation, il y a vraiment un désir de discuter de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc les livres et les auteurs qui viennent aux Assises sont invités en fonction de ça.
Oui, et ce qui est intéressant dans l'organisation des Assises telle que vous la racontez, c'est que vous faites vraiment le lien entre plusieurs établissements culturels, c'est-à-dire le public évidemment, mais aussi les écrivains, les libraires, les bibliothèques. C'est intéressant de voir cette espèce de réseau que les Assises tissent.
Oui, absolument. C'est vrai que c'était la volonté de départ quand les Assises ont été créées, proposer des manifestations littéraires qui soient accessibles à un public très large, qui soient exigeantes dans leur contenu, mais qui soient vraiment accessibles à un public large, d'où, je dirais, tout l'éventail des médiations qu'on met en place autour de ces rencontres, puisque les Assises, effectivement, c'est une semaine en mai, cette année du 23 au 29. Mais bien sûr, on construit la programmation très en amont, et très en amont également, on met en place des projets avec notamment les élèves des écoles et des collèges, des lycées qui travaillent sur des auteurs des Assises à partir de l'automne ou du mois de janvier en fonction du type de projet. Et puis très en amont également, on met en place des projets avec les bibliothèques qui sont des partenaires extrêmement importants et qui contribuent là aussi à tisser tout un réseau autour de la programmation des Assises en se faisant le relais de la programmation des Assises auprès de leurs lecteurs, en leur faisant découvrir les auteurs, en les découvrant eux-mêmes d'ailleurs. Et puis en organisant toute une série de rencontres, parfois en amont, en accueillant des auteurs pendant la semaine des Assises. C'est la même chose dans les librairies qui également accueillent des auteurs pendant la semaine des Assises. Donc c'est vrai qu'on a vraiment à cœur de pouvoir ouvrir au plus large et de faire venir du public aux subsistances, mais aussi d'amener les auteurs vers les publics partout dans la région.
Donc oui, justement, il y a un mouvement, il y a une diversité, on va dire, de public, une diversité culturelle, mais il y a aussi un mouvement dans Lyon, puisque les rencontres des Assises du roman, ça se passe dans les bibliothèques, dans les librairies, et ça se passe aussi aux subsistances. Alors, quelle est finalement la signification de cette diversité des lieux ? Vous avez l'impression que les Assises changent au fil des lieux où elles entraînent le public ?
Il y a forcément un public différent. Ça fait que les choses restent intéressantes et... qu'on n'est jamais devant les mêmes idées, les mêmes questions. Ça engendre donc un foisonnement intellectuel pour les auteurs aussi qui aiment bien rencontrer du public venant de tous les milieux, que ce soit en librairie ou que ce soit en subsistance ou dans les écoles. Il y a aussi des auteurs qui vont dans les écoles pour rencontrer des classes de lycée ou ils les rencontrent dans les bibliothèques. Mais donc à chaque fois, il y a des éléments qui changent et ça fait que c'est enthousiasmant pour tout le monde.
Oui, et puis la richesse de toute cette programmation tient aussi à la diversité des formats, puisque les rencontres subsistance sont des rencontres pour lesquelles deux ou quatre invités sont en dialogue, alors que dans les bibliothèques, dans les librairies, il s'agit de rencontrer un auteur seul qui donne une lecture d'un de ses textes et qui du coup a plus de temps pour échanger en direct avec le public, puisque là la rencontre se construit autour d'une seule œuvre et non pas d'une thématique comme c'est le cas aux subsistances.
Oui. D'accord, alors justement vous parliez des rencontres, donc on va maintenant se tourner vers les Assises 2011. Quels sont certains thèmes qu'on va retrouver au cours de ces tables rondes, justement?
Le thème des assises de cette année semble se communiquer. Il y a souvent des correspondances entre les thèmes. Par exemple, il y a la catastrophe, il y a aussi l'isolement, l'enfermement. Il y a aussi l'humour qui est un contrepoids, disons, ce thème un peu plus sérieux. On parlera aussi de la série télé américaine, qui est, je crois, un sujet particulièrement intéressant vu l'étendue du public des séries télé américaines, mais aussi l'impact que ça peut avoir sur ce qu'on vit aujourd'hui, sur notre façon de voir le monde.
C'est vrai qu'il n'y a pas de grande ligne dans la programmation, il n'y a pas une grande thématique, parce que, comme l'expliquait Maria un petit peu plus tôt, l'idée c'est de pouvoir construire des rencontres autour de questions qui nous intéressent particulièrement, sans chercher à les faire tourner autour d'une thématique, d'une nationalité, voilà. Après, c'est vrai qu'au sein de cette programmation, si on prend les rencontres aux subsistances simplement, on a différents formats de rencontres, des entretiens, des tables rondes, des lectures, qui effectivement, comme disait Maria, peuvent se répondre dans leur thématique. Par exemple, une table ronde sur le thème de la migration qui peut répondre d'une certaine manière à une autre table ronde qui s'intitule « Partir ». Donc les liens se tissent peut-être plutôt un peu comme ça en interne, entre deux, trois rencontres, deux, trois invités. Par exemple, cette année, on a aussi une présence assez forte de l'Islande, puisque le soir de l'ouverture des Assises, à la suite d'un grand entretien avec Pascal Quignard, on a organisé une soirée islandaise pour laquelle on reçoit le maire de Reykjavik et une partie de son équipe qui viendront présenter leur expérience d'artiste à la tête d'une grande capitale européenne. Et on reçoit par ailleurs une autre romancière islandaise qui participe justement à cette table ronde qui s'intitule « Partir ». Donc voilà, c'est des petits liens comme ça qui se tissent de manière un peu subtile en interne d'une rencontre à l'autre.
Oui, et en tout cas, ces thèmes montrent bien qu'il s'agit d'une réflexion sur le monde contemporain, sur nous. Et finalement, c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas trop définir ces thèmes et les laisser parler d'eux-mêmes, laisser les auteurs en faire quelque chose.
Oui, et d'autant plus que si certaines tables rondes regroupent uniquement des auteurs, d'autres sont ouvertes à des invités issus d'autres disciplines, parce que l'objet de ces assises, puisque c'est de porter un regard sur le monde contemporain, effectivement la littérature c'est un moyen de regarder le monde contemporain, mais c'est le cas également d'autres disciplines comme la sociologie, la philosophie. Donc certaines tables rondes ont des thématiques plus ouvertes à des questions de société, comme la table ronde sur le thème de la mondialisation, la table ronde sur le thème de l'expérience de l'isolement et de l'enfermement, qui sont des questions qui débordent très largement le simple champ littéraire.
D'accord, donc on vient de parler des thèmes. Alors est-ce qu'on pourrait maintenant revenir sur les auteurs que vous accueillez?
Je vais commencer donc par un de mes auteurs préférés des Assises, et pas seulement, qui viendra aussi dans le cadre de cette soirée islandaise, qui s'appelle Sean, qui est un romancier islandais et poète, auteur des paroles des chansons de Björk, et aussi auteur des paroles des chansons du film Dancer in the Dark. Et avant lui, il y aura Pascal Quignard.
Oui, en fait, il y a des écrivains qui sont... des écrivains, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs, qui ont déjà une œuvre assez conséquente derrière eux, qui sont plutôt bien connus du grand public. C'est des écrivains qu'on va retrouver plutôt dans des entretiens. Par exemple, Pascal Quignard pour l'ouverture, David Grossman dans le grand entretien de clôture, Alain Finkielkraut qui participe aussi à un grand entretien du week-end. D'autres écrivains également bien connus des lecteurs français comme Alain Mabankou participent à des tables rondes. Et puis, à côté de tous ces écrivains, d'autres invités qui sont l'auteur d'un seul roman ou en tout cas dont un seul texte a été traduit en France à ce jour. Et voilà, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que ces assises, elles explorent la littérature contemporaine aussi dans sa création la plus récente. Oui, et puis on aura un jeu d'écho aussi dans les lectures qu'on organise cette année aux subsistances, soit dans la foulée de certaines tables rondes, soit de manière indépendante. Il s'agit de lectures de correspondances organisées dans le cadre de la grande manifestation nationale À vous de lire. Et c'est des lectures qu'on a toujours souhaité accompagner de musique, puisqu'on a vraiment à cœur de tisser des liens entre les divers modes d'expression. Et donc on entendra des lectures de lettres de Debussy, de Proust, des lettres de Sénèque, voilà, issues en plus de différentes époques et qui seront accompagnées par des musiciens, par du chant, là encore pour créer des ponts.
Oui, donc une véritable ambiance pour les Assises du Roman 2011, ça promet. Alors simplement pour terminer, j'aimerais bien revenir sur ce que vous disiez Céline sur la participation. Les étudiants, et j'en sais quelque chose, ont la possibilité aussi de participer aux Assises du Roman en étant grand répondant ou modérateur.
Donc cette année, les étudiants de Lyon ont la possibilité de participer aux assises, soit en tant que grand répondant pour les tables rondes, pour poser des questions aux auteurs sur scène, soit en tant que modérateur des rencontres en bibliothèque, donc pour présenter l'auteur et pour orchestrer les rencontres entre les auteurs et leur public dans les bibliothèques et dans les librairies de Lyon. Ce qui est particulier cette année, c'est le fait que nous travaillons avec des étudiants venant non seulement des filières littéraires ou des sciences humaines, mais aussi des écoles d'ingénieurs, comme par exemple l'INSA, des filières de sciences dures, comme les filières de Lyon 1. Là aussi, nous privilégions la diversité des domaines des étudiants. Qui ont souvent aussi une grande ouverture vers la littérature et qui aiment partager leur point de vue sur la littérature avec leurs collègues qui sont dans des filières littéraires. Nous aimons voir que ces échanges ont des résultats souvent inattendus et beaux et nous espérons que ça continuera dans les années à venir.
Alors merci Maria, merci Céline. Est-ce que pour terminer, vous pourriez rappeler les dates et les moyens de réserver ?
Oui, alors les assises se tiendront aux subsistances et dans toute la région, comme on le disait, du 23 au 29 mai, donc du lundi au dimanche, c'est 7 jours de rencontre. Les réservations se font par le biais du site internet de la Villa Gilet, donc villagilet.net, également par téléphone au 04 78 39 10 02.
Parfait, nous mettrons en lien le site de la Villa Gilet sur le site de Transistor. Merci beaucoup et donc rendez-vous aux Assises du Roman.
Merci.
Merci.
Dans moins de 10 jours, vous pourrez courir aux Assises internationales du roman. Et vraiment, courez-y, car le programme promet des moments assez merveilleux. Et d'ailleurs, vous pourrez trouver tout ce programme sur le site internet de la Villa Gilet. D'ici 10 jours, donc, vous pourrez y courir. Mais d'ici là, chers auditeurs, arrêtons-nous et regardons un instant en arrière. Toute l'année, Transversar vous propose de découvrir les coulisses de l'actualité culturelle en vous parlant d'expositions, de pièces, de festivals qui font l'actualité. Nous vous présentons ces événements soit en amont, soit au moment même où ils se déroulent. Mais que se passe-t-il après ? Quelle est leur réception critique ? Quel est leur impact ? Atteignent-ils leurs objectifs ? Ce sont ces questions que nous avons voulu nous poser en choisissant 4 événements parmi les nombreux abordés cette année et en vous proposant une sorte de droit de suite. Et nous allons commencer avec ce grand moment du cinéma lyonnais auquel nous avons consacré notre première édition de l'année, le Festival Lumière.
Très souvent, les gens ont une idée de festival qui est relative au cinéma contemporain, à une compétition. Et nous, on ne voulait pas ça. On disait que dans la ville natale du cinéma, il fallait qu'il y ait un festival de patrimoine, d'histoire du cinéma. Et c'est ce qu'on a fait.
Vous avez sans doute reconnu cette voix, chers auditeurs, car elle est très présente dans l'actualité médiatique. Il s'agit de Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, mais aussi directeur de l'Institut Lumière de Lyon. À l'automne 2009, un festival de cinéma lyonnais a vu le jour, un festival de patrimoine et d'histoire du cinéma, pour reprendre les mots de Thierry Frémaux. Le défi que se lance l'Institut Lumière est ambitieux et séduisant. Il y a d'abord un travail de restauration qui répond à la volonté de faire connaître ou redécouvrir des films du passé, restaurés et projetés sur des copies neuves. Mais c'est aussi la diversité qui est notable, l'enjeu
et de diffuser des classiques comme des films plus populaires, de confronter le public à différentes formes de culture à travers le prisme du cinéma. L'engouement du public pour cette première édition montre bien que le défi de l'Institut Lumière a été relevé avec succès. 50 000 tickets vendus en 6 jours, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Sûrement mieux qu'un concert de Mylène Farmer.
Ça c'est sûr. Pendant une semaine, quoi qu'il arrive, Lyon vit au rythme des films du Festival Lumière. L'année suivante, en 2010, l'aventure continue. Vous vous en souvenez, nous sommes allés rencontrer Thierry Frémaux lors de l'inauguration de la deuxième édition du Festival Lumière.
Alors, l'édition 2010 a-t-elle rencontré autant de succès que la première? C'est quand même un tournant, toujours, la seconde édition.
Oui, eh bien écoute Nina, pour répondre à cette question, je me contenterai d'évoquer la soirée d'ouverture. Je ne sais plus si tu y étais.
Tout à fait, j'ai eu cette chance.
Tu es témoin. 4000 spectateurs, dont Nina Léger, étaient réunis dans la halle Tony Garnier pour voir ou revoir avec enthousiasme la cultissime comédie musicale Chantons sous la pluie, en présence, tenez-vous bien, de Stanley Donen, le réalisateur. Toute la semaine, encore une fois, le public n'a pas manqué à l'appel de l'Institut Lumière. Toi-même, Nina, tu dois te rappeler avec moi de cette interminable file d'attente pour la projection de Rocco et ses frères, où nous avons bien failli ne pas pouvoir entrer dans la salle.
J'avoue avoir été plus marquée par le film que par la file, tant il est magnifique, mais c'est vrai que c'était un sacré défi. Donc, on le voit avec nos expériences, c'était une réussite en termes de public, évidemment. Mais l'Institut Lumière a-t-il réussi à atteindre ses objectifs, à savoir, comme le disait Thierry Frémaux dans l'extrait qu'on a entendu, proposer un festival de cinéma entièrement différent et absolument inédit?
Eh bien, pour la première édition comme la seconde, l'Institut Lumière a effectivement permis de découvrir ou redécouvrir de grands films, tout en proposant une programmation réellement étudiée et organisée. Regardons par exemple le prix Lumière, qui récompense un cinéaste chaque année pour l'ensemble de son œuvre et pour les liens qu'il entretient avec l'histoire du cinéma. Ce prix est l'occasion de faire une magnifique rétrospective d'une œuvre, celle de Clint Eastwood en 2009 et celle de Miloš Forman en 2010. Ensuite, il est vrai que le festival offre au public la chance de voir des petites merveilles du cinéma sur grand écran et dans des conditions exceptionnelles. Je pense là notamment aux films de Luchino Visconti qui ont enchanté le public cette année et qui sont par ailleurs très difficiles à voir dans d'aussi bonnes conditions dans des salles normales. Et d'ailleurs, le choix de ce cinéaste, Luchino Visconti, illustre bien la diversité de tons et de genres que souhaitait promouvoir le festival, puisque cette rétrospective a en effet offert du noir et du blanc, mais aussi de la couleur, du néo-réalisme et de la fresque historique, du classique et du populaire.
Le bilan est donc extrêmement positif.
Ah oui, tout à fait, il est vraiment positif. On peut cependant apporter une petite nuance, ou plutôt faire un petit rappel.
Allons-y.
Thierry Frémaux, vous l'avez entendu, voulait faire du Festival Lumière un moment cinématographique inédit. Et il est certain qu'il a réussi. Mais il faut le dire aussi, il n'a pas conquis le public uniquement grâce à sa programmation. Il a aussi fait du Festival Lumière un rendez-vous des grandes stars. Plus de 50 célébrités répondent chaque année à son invitation, participent au festival en présentant certains films ou en tant que simples spectateurs. Évidemment, c'est loin d'être un reproche. Le cinéma est un art populaire basé sur des personnalités vivantes. C'est bien. Il est normal d'exploiter cette dimension-là. Et c'est un enthousiasme que nous partageons tous, et moi la première. Je souhaite simplement montrer comment cet aspect-là du cinéma fait se rejoindre le Festival Lumière avec d'autres manifestations comme le Festival de Cannes. Finalement, le même filon est exploité. Le public se rue à la séance où il apercevra peut-être Claudia Cardinale. Il veut à tout prix participer à cette Hollywood sur Saône. Belle formule qui n'est pas de moi.
Oh,
malheureusement.
Mais je suis déçue.
On ne le dira pas. Quoi qu'il en soit, nous attendons avec impatience l'édition 2011. Mais pour le moment, chers auditeurs, petit détour par le Centre Pompidou pour retrouver un mouvement artistique dont le nom, vous vous le rappelez, n'est pas si évident à prononcer.
C'est sur quoi cette fois?
De Stil.
De Stil. Je ne le connais pas.
En 1969, le musée de l'Orangerie consacre une rétrospective à l'œuvre du peintre Piet Mondrian. Puis, plus rien. Piet Mondrian est pourtant le principal représentant d'un mouvement capital de l'abstraction moderne, mouvement précurseur et inspirateur du Bauhaus, mouvement fondateur de la modernité artistique, le néoplasticisme. Comment expliquer ce peu d'enthousiasme des institutions françaises pour ce peintre majeur et qui, en outre, vécu à Paris une grande partie de sa vie, installant son atelier rue du Départ, dans le quartier de Montparnasse? Comment expliquer l'ignorance plus grande encore dans laquelle est tenu le mouvement de Steyl, mouvement rassemblé entre 1917 et 1931 autour de la revue du même nom, et qui appliqua les idées néoplastiques dans des domaines aussi variés
que le design, le vitrail ou l'architecture, au point de penser non plus à des œuvres néoplastiques isolées, mais au point de projeter un monde nouveau où toutes les formes, toutes les pratiques seraient en accord avec les idées du néoplasticisme. Le Centre Pompidou a tenu à remédier à cette lacune en proposant, entre décembre et mars dernier, une grande rétrospective consacrée à Piet Mondrian et au groupe de Steyl, dont Theo van Doesburg, Bart van der Leck et le designer Gerrit Rietveld sont les membres principaux. L'exposition était donc un événement et Transversaar, qui est toujours de tous les bons coups, a décidé de s'y intéresser en vous proposant un entretien réalisé une semaine avant l'ouverture de l'exposition avec Aurélien Lemonnier, un de ses commissaires.
Et quel est le bilan donc de cette exposition ?
Alors, tout d'abord, on peut dire qu'elle a réussi un pari qui n'était pas gagné d'avance. Celui de séduire un public important avec une exposition consacrée à un sujet pointu. Une exposition porteuse d'une visée scientifique très fortement affirmée. On pouvait ainsi lire dans le magazine L'Œil, je cite, « Le sujet est pointu, mais on passe des heures dans ces grandes salles pleines de chefs-d'œuvre. C'est l'exposition du moment. Bon. » Les grands musées sont toujours confrontés à ce dilemme, il faut le dire. Ou bien réaliser une exposition, ce qu'on appelle une exposition blockbuster, une exposition spectacle, une exposition aguicheuse, sûre de ramener du monde. Ou bien s'engager dans des expositions porteuses de ce qu'on appelle par un bel anglicisme un statement théorique. Ici, le Centre Pompidou avait clairement fait le choix de l'exigence scientifique. Et pourtant, ceci n'a pas effrayé le public et c'est en soi une excellente nouvelle. Ensuite, qu'a dit la critique ? On s'aperçoit qu'elle a été sensible à deux choses, principalement. Le choix de consacrer plusieurs salles à la genèse du néoplasticisme tout d'abord. En gros, c'est le choix qui a été fait de montrer d'où vient Mondrian, de révéler que celui-ci, qu'on connaît pour ses grilles noires sur fond blanc et ses carrés de couleurs primaires, est en fait issu du symbolisme, qu'il a commencé par une peinture extrêmement figurative, qu'il a commencé par peindre des portraits et des paysages, et que ça n'est que progressivement que son trait s'est épuré, qu'il a tenté de ne garder que les structures essentielles, aboutissant ainsi à l'abstraction la plus géométrique qui soit. D'ailleurs, il faut dire qu'avant d'entamer cette période néoplastique, Mondrian a peint pendant très longtemps et que c'est seulement à 40 ans qu'il est passé à l'abstraction. Donc il avait déjà derrière lui une carrière et déjà une très grande reconnaissance dans son pays, aux Pays-Bas.
D'accord.
Et donc, pour résumer cet intérêt de l'exposition, le Figaroscope s'émerveillait, je cite, « L'exposition révèle un parcours moins rectiligne qu'il n'y paraît. » Et je pense qu'ici, il faut comprendre le terme rectiligne dans le plein sens du terme. Alors, je vous avais dit deux éléments. Le second élément auquel fut sensible la critique, c'est la mise en avant de la pluridisciplinarité. Disons-le tout de suite, celle-ci est le fait du groupe de Steyl. Mondrian, lui, fut peintre et peintre uniquement, peintre absolument. Et donc c'est pour ça que cette diversité de matériaux, cette présentation de médias multiples était réservée aux parties consacrées au groupe de Steyl. L'exposition proposait par exemple une magnifique salle de vitraux, plusieurs objets dessinés par Gerrit Rietveld, des maquettes d'architecture, etc. Ce qui donnait une très grande richesse, un très grand foisonnement au parcours. Et c'est ce à quoi ont été sensibles par exemple le magazine Beaux-Arts ou la chaîne Arte qui insistèrent sur le plaisir qu'il y avait à découvrir ces facettes multiples et mal connues en France du néoplasticisme qu'on réduit souvent, et à tort, aux grilles de Mondrian.
Encore une fois, le bilan est très positif. Mais faut-il apporter, comme on l'a vu avec le Festival Lumière, quelques petites nuances ?
On va quand même tenter de le faire.
Ouais,
alors il y a une critique qui revient régulièrement et qui reproche le côté bicéphale de l'exposition, matérialisée typographiquement par le slash qu'il y avait sur le carton d'invitation, sur le catalogue, sur l'affiche, entre Mondrian et de Steyl. Il n'y avait pas de contact entre les deux, on avait deux parcours distincts, mais enchâssés l'un dans l'autre. Et dans Le Monde, Philippe Dagen écrivait ainsi, je cite, « Cette décision, du point de vue de l'histoire de l'art et des idées, est logique. Elle réunit l'initiateur et les disciples, la cause et ses conséquences. Dans les faits, elle donne naissance à une exposition bizarrement siamoise, dont le parcours n'est pas simple. » Et donc on a ce tiraillement, cette opposition entre vérité scientifique d'une part, vérité respectée par l'exposition, et la matérialité de l'exposition qui confronte le visiteur à un parcours assez difficile et qui exige sans doute de lui une attention soutenue et peut-être des connaissances préalables. Donc deux expositions clairement séparées dans deux galeries différentes du Centre Pompidou auraient-elles facilité les choses ? Ça reste à voir, car on aurait risqué de perdre un des propos principaux de l'exposition, c'est-à-dire rappeler
les liens entre De Stijl et Mondrian, rappeler ce que Mondrian doit au groupe De Stijl. Bref, je m'arrête là. Je vous propose que nous passions tout de suite du musée à la Seine pour évoquer le cycle Siècle d'Or, organisé en janvier et en février, au TNP de Villeurbanne.
Si je donnais trois adjectifs ou trois substantifs, je dirais que la Célestine est une œuvre rhétorique, que le donjon est une extravagance et que Don Quichotte, dans la forme qu'on prend, est une fantaisie.
Trois œuvres du siècle d'or, donc, qui ont été mises en scène par Christian Scaretti. La Célestine de Fernando Rojas, Don Juan de Tirso de Molina et Don Quichotte de Cervantes. Après avoir été joué tout l'hiver au TNP de Lyon, la troupe a continué ses représentations au Théâtre des Amandiers à Nanterre. L'adaptation du siècle d'or est toujours assez originale en France car les textes ne sont pas très connus. On connaît le Don Juan de Molière, moins celui de Tirso de Molina qui est pourtant le premier et le fondateur du mythe de Don Juan. Christian Scaretti a également fait un choix générique audacieux avec la Célestine et le Don Quichotte puisque ce ne sont pas des pièces de théâtre. Pour lui, il s'agit donc de montrer le siècle d'or avant de montrer le théâtre du siècle d'or. Écoutez ce qu'il dit dans un entretien pour Télérama. J'explore la préhistoire du siècle d'or avec la Célestine, qui est une œuvre rarement montée parce qu'elle s'inspire d'un texte en prose qu'il faut adapter pour la scène. C'est une œuvre fondatrice et fondamentale. Don Juan, en revanche, c'est la plénitude du siècle d'or, même si c'est un texte trop peu connu. C'est la première figure de Don Juan, celui qui ne sait pas encore qu'il est Don Juan. Comment, alors, mettre en scène des textes classiques, mais peu connus, dont certains ne sont même pas des pièces de théâtre, sans tomber ou dans l'absurdité, ou au contraire, dans le cliché. Christian Scaretti nous mettait sur la voie dans son entretien pour Transversar. Les textes sont entièrement revisités, dans la forme comme dans la langue. Il avait insisté sur le travail, sur la traduction.
Tout à fait, oui.
Et c'était d'ailleurs très intéressant, car il avait impliqué... Oui, et il avait impliqué également, dans une des traductions, Pauline Noblecourt à Château-d'Oroff, donc des élèves de l'école. C'était intéressant de voir cette participation. Et pour quel résultat donc, ce travail sur la langue ? Pour arriver à un Don Quichotte extrêmement moderne, ouvert au jeune public, et une mise en scène très personnelle de la Célestine et de Don Juan. Pour ces deux pièces, la salle devient un espace bifrontal avec un public présent d'un côté et de l'autre de la scène. Le metteur en scène a voulu reprendre le principe du choral espagnol qui, au XVIIe siècle, est un ensemble de salles bâties sur des places publiques permettant le mélange entre spectateurs et acteurs et créant une communauté autour du texte et de la langue.
Et c'était très réussi.
Oui, c'était tout à fait réussi. Tout le monde n'est pas d'accord, c'est ce qu'on va essayer de voir. Certains critiques, effectivement, ont reproché à Schiaretti d'affaiblir le texte justement par ses choix scénographiques. D'autres ont considéré que le jonglage entre fidélité aux sources, avec notamment les costumes d'époque, et prise de liberté dans les actions des personnages, notamment la scène de Don Juan quand il est censé... sortir de l'eau après s'être noyé, trouvait que c'était trop libre par rapport au texte. Donc certains ont considéré, oui, que le jonglage entre cette fidélité et d'autre part trop de liberté était parfois un peu facile, bien que toujours efficace dans la mise en scène. C'est mon point de vue en tout cas. Cependant, tout le monde s'accorde au moins pour saluer la grande place accordée à l'humour, un travail sur la langue qui apparaît notamment sous les traits caricaturaux de certains personnages dans Don Juan ou dans l'emploi de vocabulaire grivois par opposition à des phrasés plus soutenus. C'est la richesse de la langue du siècle d'or qu'a voulu célébrer Schiaretti, une langue qu'il faut sans cesse réexplorer si on veut en saisir toutes les subtilités. Quittons à présent la scène et tournons-nous vers le musée d'art contemporain de Lyon qui a fait l'objet d'une de nos dernières émissions.
La question d'Indian Highway consistait à dire comment parler comme ça de façon très très globale, c'est-à-dire de façon très synthétique, donc de façon très fausse, d'une situation éloignée pour laquelle on a des archétypes, des idées toutes faites, et comment ne pas friser l'exotisme.
Ne pas friser l'exotisme, difficile consigne lorsqu'on évoque un pays aussi fantasmé que l'Inde. Avec ses 2000 m², ses 31 artistes, le volet 4 de l'exposition itinérante et évolutive Indian Highway parvient-il, je parle au présent puisque l'exposition n'a pas encore fermé ses portes, ce quatrième volet parvient-il à présenter la création indienne dans toute sa diversité ? Il semble bien que oui. Certes, plusieurs œuvres exposées représentent une tendance monumentale et clinquante assez peu enthousiasmante, car rééditant des voix déjà empruntées, souvent de manière plus intéressante, par des stars de la scène contemporaine indienne comme Subodh Gupta, dont deux œuvres sont d'ailleurs visibles au MAC, ou Anish Kapoor. En revanche, un grand nombre d'œuvres renoncent à époustoufler par leur taille, leur brillant ou leur brio pour choisir
des voix plus discrètes et subtiles. Je pense ici notamment à la très très belle installation de Soumakshi Singh, une pièce blanche où sont disséminées des sortes de micro-sculptures qu'on pourrait écraser si on ne prêtait pas attention à elles. Alors, l'exposition, il faut l'avouer, n'a pas bénéficié d'une couverture presse très importante. C'est souvent le cas pour les expositions qui se tiennent ailleurs qu'à Paris. Mais on peut néanmoins noter un élogieux article du Monde où Emmanuel Lequeux conclut à la réussite de l'exposition. Je la cite. « Alors que les regards du monde entier se tournent vers les quelques stars de l'art indien, le Musée d'art contemporain de Lyon choisit de révéler cette nouvelle scène émergente dans sa complexité en s'éloignant des clichés. » Mission réussie pour Thierry Raspail, semble-t-il. Emmanuel Lequeux remarque également un fait non négligeable, la très bonne représentation des artistes féminines, si faible d'ordinaire dans l'art contemporain et dans l'art en général.
Ça colle bien avec Transversal.
Tout à fait, nous sommes là pour contrer cette tendance. Et d'ailleurs, si la mondialisation de l'art dont Indian Highway se veut le témoin pouvait rimer avec une meilleure représentation des artistes féminines dans la jeunesse artistique, on ne pourrait que se réjouir. Alors à noter aussi l'exposition Paris Delhi Bombay. Et là, je vous parle soudainement du futur, puisque celle-ci ouvrira ses portes le 25 mai au Centre Pompidou, retour à Paris. Et Paris Delhi Bombay après Indian Highway. De nouveau, on a là une exposition qui, en mettant l'Inde à l'honneur, évoque par son titre des logiques de flux, de communication, d'interaction entre les lieux. Et pour cause, comme dans le cas d'Indian Highway, le Centre Pompidou lie sa réflexion sur l'Inde contemporaine à une réflexion sur la mondialisation de l'art contemporain. Le principe de Paris Delhi Bombay est de faire travailler ensemble des artistes français et indiens afin de les faire dialoguer. Alfred Pacman, qui dirige le Centre Pompidou, dit d'ailleurs que ce principe fut choisi en raison de la nécessité d'inventer un principe tout à fait nouveau pour, je cite, prendre pleinement la mesure du phénomène de la mondialisation artistique. Principe tout à fait nouveau, sans doute, mais qui peut tout de même vous rappeler, chers auditeurs, une autre exposition qui faisait dialoguer la création artistique occidentale et une scène émergente sur le plan de l'art contemporain, l'exposition Vis-à-vis, ou Visvai, organisée par l'École des Beaux-Arts de Lyon, et dont nous vous avions parlé ici, cette exposition associée jeunes créations russes et jeunes créations françaises. Décidément, les notions de mondialisation et d'internationalisation de la création artistique sont à l'honneur cette année.
Et nous avons bien là une preuve de l'hyperpuissance de la culture. Même lorsqu'un événement est terminé, il donne encore lieu à de longues discussions et c'est difficile de s'arrêter. Mais il y a un moment où il faut bien, bon gré mal gré, rendre l'antenne, n'est-ce pas Nina ?
Oui.
Avant de vous quitter, en effet, nous souhaitons remercier tous ceux qui ont participé à nos émissions, notamment nos invités du Petit Salon, et le trio masculin qui nous a concocté un transversal musical dans l'émission précédente, ainsi que bien sûr nos chers chroniqueurs de Regards Sûrs.
Nos chroniqueurs de Regards Sûrs, citons-les tous. Benjamin Sylvan, Anne-Laure Mercier, June Kwon, Thibaut Bekini, Jennifer Thio, un grand merci à eux et un grand merci à vous, chers auditeurs, qui nous avez suivis cette année, et qui peut-être suivez Transversal depuis 2 ans.
Oui.
J'espère. Je vais ici me permettre de dire un petit peu « je », puisque l'année dernière, j'ai fondé l'émission avec Swan Spies et Anne-Laure Mercier. Grâce à Célia, Transversar a poursuivi son parcours. Mais l'an prochain, chers auditeurs, l'an prochain, nous aurons besoin de nouveaux animateurs pour passer derrière le micro et reprendre, adapter, renouveler en toute liberté Transversar. Alors n'hésitez pas, rejoignez Transistor, rejoignez Transversar. Merci encore, chers auditeurs. Ça a été pour moi un immense plaisir d'animer cette émission. Je pense que Célia peut en dire autant.
Oui, je peux en dire autant, bien sûr. C'était une très belle expérience, une expérience qui s'achève. J'ai été ravie d'être aux commandes de Transversal avec toi, Nina. Et je ne peux qu'encourager nos auditeurs à rejoindre Transistor et Transversal à la rentrée. Venez avec vos projets, vos idées, et vous ne regretterez pas l'aventure. Merci à tous.
Voilà, on termine en remerciant évidemment la technique sans qui rien ne serait possible, et notamment Xavier qui nous aide chaque semaine. Bonnes vacances à tous, à très bientôt, et ne quittez pas l'antenne tout de suite. N'oubliez pas que dans Anormal, Laure et Caroline vous révèlent les résultats du concours de création radiophonique Frisson.
Bonnes vacances.
À bientôt.